l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres. Après Sangé, la FSAM 23 s'est retirée de Luvungi, dans la plaine de la Rudzizi l'avant-midi de ce mardi 12 mai 2026. Les troupes de la FSAM 23 se sont repliées vers Katoguda et Kamanyola, laissant champ libre aux éléments Wazalendo et aux forces armées de la RDC. Depuis le début de la guerre au sud Kivu, l'activité de la recherche scientifique est à rude épreuve, que ce soit dans les zones sous contrôle du gouvernement de la RDC, comme dans celles sous contrôle de la FSAM 23. Les chercheurs sont traités d'espions ou de suspects. Leur mobilité est affectée par les coûts des trajets et la méfiance des interlocuteurs. Un des leurs demande la création d'un couloir scientifique. Et l'insécurité caractérisée par l'incursion d'hommes armés qui se soldent par des intimidations et ou tortures, la crise financière et les manques de matériel, des soins appropriés, ces éléments constituent l'ensemble des difficultés que rencontrent les infirmiers au sud Kivu en cette période. À l'occasion de leur journée célébrée ce 12 mai, les infirmiers et infirmières plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Après la cité de Sangé, les troupes de la FSAM 23 se sont retirées de Luvungi dans l'avant-midi de mardi 12 mai 2026, une autre entité de la plaine de la Rudzizi, où ils s'étaient concentrés depuis la nuit de dimanche 10 à lundi 11 mai 2026. Les précisions avec Myriam Moufano.
Encore visible en grand nombre dans différentes avenues, c'est vers midi que les habitants vont remarquer un mouvement inhabituel, indique un correspondant occasionnel joint par la rédaction des radios Maïndéléo. Le retrait effectif va alors se confirmer vers 13h45 avec l'arrivée des premiers éléments Wazalendo en provenance des Sangé. Ces derniers ont marché sur la cité des Luvungi, visiblement pour assurer la population, et c'est seulement quelques minutes après que les forces armées de la République démocratique du Congo vont aussi faire leur apparition. Les troupes de la FSAM 23 qui étaient encore présentes dans la zone ont pris la direction de Katoguta et Kamanyola, alors que d'autres arpentaient les collines des Lubarika pour se diriger vers la chefferie des Kaziba en territoire des Walungu, poursuit notre source. Dans la cité des Sangé, au lendemain de l'entrée des FRDC Wazalendo, marquée par des tirs de balles le lundi, les activités reprennent progressivement. Le mardi 12 mai 2026, l'on signale les retours massifs des déplacés réfugiés, indique un acteur de la société civile dans la zone. Ici, les écoles et magasins ont ouvert leurs portes, au même titre que dans les villages des Moutaroul et Louberizi, où d'ailleurs l'on rapporte un redéploiement des éléments FRDC et Wazalendo. À Luvungi, les mouvements de retrait des troupes de la FSAM 23 et l'arrivée des FRDC et Wazalendo ont empêché la reprise des activités, indique une source sur place qui précise qu'aucune école ou magasin n'a ouvert les portes. Ces mouvements ont également provoqué une panique au sein de certains habitants qui ont pris la direction des Kamanyola, craignant pour leur sécurité après les retraits de la FSAM 23 dans plusieurs villages de la plaine de la Rudzizi et les moyens plateaux d'Uvira. Mais à Katoguta et Kamanyola, la situation restait marquée par un calme précaire, mais avec une peur au sein des habitants qui s'interrogent sur la suite des événements, surtout que les deux parties ne communiquent pas suffisamment sur ces mouvements.
Et les chercheurs du domaine scientifique rencontrent plusieurs obstacles pour accéder aux données depuis le début de la crise sécuritaire qui oppose la FSAM 23 et le gouvernement de la République. Leur mobilité est affectée par le coût des trajets, les exigences conjoncturelles ainsi que la méfiance des interlocuteurs sur le terrain qui considèrent les chercheurs désormais comme des suspects ou des espions. C'est ce que fait savoir Augustin Moudekere Zakasenge, chercheur à Angaza Institute, un centre de recherche et d'analyse des conflits et de la gouvernance. Explication Omer Moudekereza.
Dans une tribune rendue publique, ces chercheurs ont dit que pour accéder à certaines zones, comme par exemple à Kamituga, les chercheurs en l'instar d'autres citoyens payent approximativement 100 $ américains pour un aller et retour à moto. À ces montants s'ajoutent environ 93 $ américains à libérer aux multiples barrières, les unes tenues par les forces de sécurité et les autres par des civils qui se présentent comme volontaires pour l'entretien de routes, ajoute notre interlocuteur. Avant d'entamer ce parcours, les chercheurs sont obligés d'obtenir une feuille de route à la division de l'intérieur, aujourd'hui repliée à Uvira, à plus de 130 km de Bukavu, en passant souvent par le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi, avec tout ce que cela implique pour le coût du trajet et l'achat des titres de voyage, pour les seuls allers et retours Bukavu-Uvira. Les frais administratifs et logistiques, hors hébergement et restauration, ont atteint environ 235 $ américains au lieu des 10 $américains dans l'ancien temps pour ceux qui détenaient des documents CPGL. Surtout les trajets évoqués, ajoute Augustin Moudekereza, le chercheur qui affiche une curiosité scientifique et porteur d'un carnet de bord, devient un corps à contrôler, car à chaque barrière, la question qui revient est celle de savoir pour qui mène-t-il la recherche. Cette réalité impose de repenser les analyses classiques de la mobilité des chercheurs, d'où son plaidoyer pour une ouverture d'un couloir scientifique, comme c'est le cas pour les humanitaires. Sans donner de la recherche, l'enseignement supérieur sera affecté et les politiques publiques manqueront des repères et des soubassements réalistes, argumente Augustin Moudekereza.
Tout d'abord, on doit être conscient, que ce soit qu'on soit des X ou des Y camps, être conscient que la recherche est très vitale pour la vie d'une société. Ça, on doit être conscient. Et pratiquement, je peux proposer, à la manière des humanitaires, qu'on fasse un couloir scientifique. Ce couloir scientifique permettrait que, lorsque on est revêtu d'une qualité de chercheur, qu'on soit à même de bénéficier quand même d'accès à la zone de recherche. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis convaincu, à ma qualité de chercheur, qu'on ne peut pas enseigner sans produire du savoir. C'est en cherchant, en produisant du savoir, qu'on peut avoir la matière à enseigner aux étudiants.
Il fait savoir aussi que le contexte de la guerre empêche les chercheurs du Nord, c'est-à-dire ceux de l'Europe, d'implémenter leurs projets de recherche au Sud Kivu et au Nord Kivu, d'où son plaidoyer pour un retour définitif de la paix.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Nous changeons de chapitre à présent. Les infirmiers et infirmières du Sud Kivu sont appelés à s'inscrire à l'ordre des infirmiers et à exercer leur métier avec humanisme afin de promouvoir la valorisation de leur profession et garantir des soins de qualité à la population. Cette démarche leur permettra également de travailler en toute sécurité dans le respect de l'éthique professionnelle. Message du Conseil provincial de l'ordre des infirmiers au cours d'une activité organisée à l'occasion de la Journée internationale des infirmières et infirmiers célébrée chaque 12 mai de l'année. Selon Théodore Ntaboure, président du conseil provincial de l'ordre des infirmiers au Sud Kivu, cette rencontre visait à réfléchir sur les conditions d'exercice du métier d'infirmier, particulièrement dans un contexte marqué par l'insécurité dans l'est de la RDC. Il indique que les blouses blanches font face à plusieurs difficultés, notamment la crise économique, le manque de matériel médical adéquat dans certaines zones et l'insécurité persistante qui complique leur travail au quotidien. Pour lui, l'inscription à l'ordre des infirmiers est essentielle car c'est un canal permettant de mieux défendre leurs droits tout en renforçant l'unité et le professionnalisme au moment de l'exercice de leur métier. Il appelle les infirmiers à renforcer la résilience sanitaire afin de valoriser ce métier noble consacré à sauver des vies humaines. Théodore Ntaboure en parle.
Je demande d'abord à tous les infirmiers, infirmières, de prendre inscription au tableau de l'ordre des infirmiers. Car l'article 5 de la loi portant création et organisation du fonctionnement de l'ordre des infirmiers en RD Congo dit ceci. Nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Donc tout infirmier qui preste sans être inscrit au tableau de l'ordre est entré de travailler hors normes. Je leur demande aussi de soutenir et appuyer le syndicat parce qu'il y a les actions syndicales et les actions organisationnelles qui doivent être soutenues par les membres qui sont les infirmiers. De persévérer à rendre service à la population sans distinction de race, de tribu, de nationalité, d'origine. Servir d'abord la personne humaine, servir la personne très très bien avec les soins infirmiers de qualité.
Le thème retenu cette année est « Nos infirmières, notre avenir, donner le pouvoir d'agir aux infirmiers » pour sauver des vies. Et dans les structures médicales à Bukavu, tout comme dans les territoires de la province du Sud Kivu, les infirmières et infirmiers continuent de travailler dans des conditions de plus en plus précaires. Qu'en est-il, Hélène Boudjiriri?
Confrontés à un contexte sécuritaire fragile, nombreux demeurent sans reconnaissance étatique avec une qualité de nouvelle unité. Sous cette qualité, les infirmières et infirmiers survivent grâce à une petite prime locale, souvent irrégulière, ou qui varie selon la fréquentation de leur structure par les malades. Malgré cela, le serment reste celui de sauver des vies, déclare John Muka, infirmier et directeur de nursing au centre hospitalier Saint-Mathieu de l'église anglicane, situé non loin de l'essence Major Vangou. Ici, comme dans d'autres structures visitées à l'occasion de cette journée, les défis restent sécuritaires, avec notamment les incursions des personnes armées, mettant ainsi en danger la vie des infirmiers et des malades. À l'hôpital Saint-Mathieu, par exemple, deux attaques d'hommes armés ont déjà été enregistrées au cours desquelles les personnels soignants, les malades et leurs gardes ont subi des menaces, tortures, intimidations. En plus de la sécurité, son directeur nursing veut que l'État améliore les conditions de travail des infirmières et infirmiers en mettant à leur disposition les équipements nécessaires, mais aussi améliorer leur salaire. John Muka en parle.
On ne comprend rien. Comment, par exemple, un infirmier peut être nouvelle unité pendant 10 ans avec tout ce qu'on fait comme travail nécessiter normalement une prise en charge adéquate. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, on est tracassé par l'insécurité. À titre d'exemple, ici chez nous, autrefois, au niveau du centre de traitement choléra, on a connu des incursions, des hommes armés non notamment identifiés. Ça frustre que ce soit les infirmiers, que ce soit les malades. C'est-à-dire, quand l'infirmier vient au travail, il se dit, bon, je pars au travail, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et pourtant, quand il vient au travail, il devait se sentir en sécurité quand il est en train de faire son travail. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, l'hôpital essaie de se débrouiller tant bien que mal. C'est à partir de ce qu'on gagne ici à l'hôpital, localement, qu'on essaie de nouer les deux bouts de mois. Bon, sinon, si l'hôpital ne faisait pas ça, bon, je ne sais pas, quel serait peut-être le sort.
Il rappelle que les infirmières et infirmiers sont soumis à des charges horaires plus fortes et exécutent plusieurs tâches dans la chaîne des soins médicaux, mais leur traitement sur le plan financier reste moindre par rapport à d'autres intervenants, d'où l'appel à un réajustement.
Infrastructure à présent, la route nationale numéro 2 sur son axe reliant Bukavu au territoire de Walungu Mwenga et Shabunda se trouve dans un état de délabrement très avancé ces derniers temps. Dans plusieurs témoignages partagés à Radio Mandeleo, les usagers indiquent qu'il suffit d'une petite pluie pour que ce tronçon soit impraticable. Des dizaines de passagers à bord, des véhicules ou ceux voyageant à moto sont parfois contraints de passer la nuit en cours de route. Pourtant, le temps des voyages ne pouvait dépasser 1h30 en temps normal. Détail Alain Kabika.
Certains malades transportés en urgence arrivent même à perdre la vie, faute d'évacuation rapide vers des structures sanitaires adaptées. Parmi les endroits les plus dégradés figurent notamment Butuza, Kahimbari, Bideka, Mugogo, ainsi qu'un autre endroit communément appelé Chevent, des endroits devenus des véritables cauchemars pour les conducteurs. Pour eux, cette situation accentue davantage la vulnérabilité des populations locales, alors que Bukavu demeure le principal centre d'approvisionnement économique pour les territoires de Walungu, Mwenga et Shabunda. Face à cette urgence, la synergie des étudiants ressortissants du territoire de Walungu Sewa en sigle appelle la notabilité locale à se mobiliser autour de cette question. Par voie de son président Aganze Murabazi Arsène, cette structure exhorte également les autorités compétentes à prendre sans délai des mesures concrètes en vue de la réhabilitation de cette route d'intérêt stratégique. Il en parle.
Ce dernier temps, la route nationale numéro 2, Bukavu Walungu Mwenga Shabunda, est dans un état de délabrement très avancé. Ce dernier temps, quand il pleut, voilà que les passagers sur ces tronçons routiers sont contraints de passer des nuits sur ces tronçons routiers, tandis que Bukavu Walungu, c'était un tronçon là où quand même les véhicules, même à bord d'une moto, d'un trajet d'1h30 ou 1h à bord d'un véhicule. Mais ce dernier temps, il y a même des véhicules qui transportent les malades pour des cas d'urgence pour se diriger à Bukavu dans d'autres structures dans le territoire de Walungu. Et voilà que parmi ces malades, certains perdent même la vie en cours de route à cause des mauvais états de la route. Même il y a des convois aussi funéraires que nous observons ces derniers temps sur les tronçons. Les mauvais états de la route, ces convois sont obligés aussi de passer des nuits dans des routes, tandis qu'ils étaient obligés d'aller enterrer. Même le corps aussi va passer la nuit dans la route.
Précisons que déjà plusieurs véhicules en provenance de Walungu se sont embourbés le dimanche dernier, obligeant les passagers à passer la nuit sur la route pour n'arriver à Bukavu que ce lundi dans la matinée, dénonce notre source.
et la synergie des amis de Katana, une plateforme des organisations et personnalités sociales évoluant à Bukavu et ailleurs, invite les autorités locales et les services de sécurité à renforcer l'environnement qui permet une bonne collaboration entre eux et les habitants de cette partie de Kabare. Ceci passe par l'abandon des pratiques qui tendent à semer la terreur au sein de la population à travers notamment des arrestations jugées arbitraires. Omer Moudekereza.
Dans un communiqué rendu public et une copie parvenue à Radio Maïndéléou, cette plateforme fonde son plaidoyer sur les informations faisant état des arrestations en cascade de plusieurs personnes, motif qu'elles ne disposaient pas des jetons, prouvant leur participation aux travaux communautaires dits Salongo de chaque samedi. La structure fait état de plusieurs personnes arrêtées depuis 2 semaines, même après les journées de samedi prévues officiellement pour les travaux communautaires. Elle cite d'autres cas qui ne favorisent pas un climat de cohabitation, au point qu'elle a envie de vivre dans la cité serait en train de s'effriter pour plusieurs habitants, tout en encourageant les travaux communautaires, qui sont un moment de socialisation, de resserrement des liens et permettant aux habitants d'assainir leur milieu. La synergie des amis des Katana appelle les autorités à ne pas transformer l'activité en un moment de terreur. On écoute à ce sujet Justin Mouroula, l'un des membres de cette synergie.
Les Salongo de chaque samedi est devenu une croix pour cette population d'Irambi Katana. Les jeunes, les mamans, les enseignants, même les infirmiers ne peuvent plus marcher, se déplacer sans avoir les jetons sur la poche. Si les autorités en place te retrouvent, tu n'as pas de jetons, tu es arrêté. Pour être libéré, il faut payer de l'argent. C'est vrai que les Salongo, c'est très bien, c'est important pour le développement de l'entité, du village ou du groupement. C'est vrai que c'est pour le bien de la population que les Salongo est organisé. Mais si les Salongo peut devenir une croix pour la population, un moyen de rançonner, de soutirer de l'argent indûment à cette population, alors les Salongo n'est plus vraiment perçu par la population comme un moyen de vivre ensemble, un moyen de travailler pour sa communauté, un moyen de rendre propre son milieu de vie, par amour de ce qu'ils font mais par contrainte. Nous demandons aux autorités qui sont en place de prendre cette question au sérieux.
Nos efforts pour entrer en contact avec les autorités dans la zone sont restés vains. D'autres n'ont pas voulu réagir à ces sujets.
Et le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance dénonce des cas d'arrestation arbitraire dont sont victimes certains ressortissants de la province du Sud Kivu, dans les provinces du Tanganyika, Lualaba et Haut-Katanga. Dans un entretien avec Radio Mandela mardi 12 mai 2026, cette structure souligne que les cas récents concernent 46 ressortissants du Sud Kivu arrêtés la semaine dernière à Mitoaba dans la province du Haut-Katanga lorsqu'ils voyageaient pour assurer la survie de leur famille. Après leur arrestation, ces derniers ont été transférés à la 22e région militaire où ils sont détenus jusqu'à ces jours, déplore le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance. Le président de cette structure, Amani Luamba, exige la libération de ses compatriotes qui n'ont commis aucun acte répréhensible. Il appelle également l'État congolais à assurer le droit à la liberté de circulation à ses citoyens. Amani Luamba en parle dans cet élément.
Des cas des arrestations arbitraires de nos concitoyens, tout simplement parce qu'ils portent une carte d'identité ou carte d'électeur du Sud Kivu, dans l'un de nos territoires ou de la ville de Bukavu, il doit être interpellé par les services, arrêté, retenu pour 2-3 jours, d'autres pour 1 semaine. Ils se voient être extorqués même de leurs biens, même des petits frais de transport qu'ils obtiennent difficilement en vendant les biens de la maison. Je suis entré en contact avec les autorités de la province du Haut-Katanga qui estiment les déférés au service de l'ANR. Cela complique plus la souffrance de nos compatriotes. Nous demandons à l'État congolais de pouvoir sécuriser nos concitoyens et assurer le droit à la liberté de circulation, en particulier les compatriotes qui viennent du Sud Kivu, qui nécessitent protection, un certain accompagnement vu les traumatismes dans lesquels ils sont en train de vivre. Nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes continuent à être arrêtés comme ça. Le droit de la liberté de circulation est constitutionnellement garanti à tout citoyen. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de nos compatriotes, dont la liste est entre les mains du gouverneur du Haut-Katanga, retenus à la 22e région militaire.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïndéléou. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Pour à présent, 2 affiches de la Ligue 1 Illico Cash de la Dinafoot ont eu lieu mardi à Kinshasa au stade d'Atata Raphaël de la Kitule. Le cercle sportif Don Bosco s'est imposé devant Céleste de Mbandaka sur le score d'un but à 0 et 20 clubs a assuré l'essentiel en battant Simba de Kolwezi sur la note d'un but à 0. Nous changeons de chapitre. Au niveau de Bukavu, en phase finale du championnat provincial de football, deux matchs sont prévus ce mercredi 13 mai 2026. À 13h, le TPS Imero affronte le FC Mazembe. À 15h, place à la confrontation entre Lumière des Cabarets et Kinga de Walungu. Et en sport loisir, à l'occasion du jubilé d'argent, 25e anniversaire d'existence du CS La Véronique, des matchs de football sont programmés au stade de la Concorde de Kadutu ce mercredi 13 mai 2026. Au programme, à 10h, les anciens élèves affrontent les nouveaux élèves du CS La Véronique. À 11h, les enseignants en découdront avec les parents des élèves du CS La Véronique. Pour rendre cette journée agréable, l'école plaide pour la participation massive des parents, des élèves et d'autres personnes. L'entrée au stade de la Concorde de Kadutu sera gratuite.
La revue de presse, Radio Mindelieu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Le délabrement avancé de la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwenga, décrit par la synergie des étudiants du territoire de Walungu, et les dangers auxquels sont exposés plusieurs enfants qui abandonnent l'école en territoire d'Idui font partie des sujets commentés par la presse mardi 12 mai 2026. Alain Kabika pour la revue de presse.
La synergie des étudiants de Walungu Sewa RDC dénonce la dégradation avancée de la route nationale numéro 2, axe stratégique reliant Bukavu au territoire de Walungu, Mwenga et Shabunda au sud Kivu, titre le site internet snews.info. Dans une déclaration publiée lundi 11 mai 2026, cette structure estudiantine alerte sur une situation jugée critique, affirmant que la RN2 est devenue quasiment impraticable, avec un risque réel de rupture totale de la liaison routière entre Bukavu et ses territoires. Elle décrit un quotidien difficile pour les usagers, particulièrement en saison pluvieuse, où les déplacements sont fortement ralentis, soulignant que les trajets Bukavu-Walungu autrefois effectués en 1h30 peut désormais durer toute une nuit, obligeant parfois les voyageurs à dormir en pleine route, exposé à l'insécurité et aux risques sanitaires, une situation qui aurait favorisé des cas de pillage ces derniers temps. Les conséquences sont également graves sur les plans humanitaires, alerte la CEWA. Cette organisation affirme que certains malades, transférés vers des structures sanitaires de Bukavu ou de l'intérieur du territoire, perdraient la vie en cours de route. Même les convois funéraires sont touchés, des corps étant parfois contraints de passer la nuit sur la route, une réalité jugée contraire aux normes culturelles locales qui exigent dignité et respect des défunts. Par ailleurs, la structure étudiantine rapporte que plusieurs véhicules sanitaires, humanitaires et des transports en commun restent bloqués pendant de longues heures sur cette route, sur des points critiques tels que Buruza, Kashanja, Kahimbari, Bideka, Buhesi, Mugogo, ainsi qu'à l'endroit d'Ichevant. Face à cette situation, la CEWA RDC exprime sa vive inquiétude quant aux souffrances des populations déjà fragilisées par l'insécurité et les effets de la guerre dans la région. Elle rappelle que les territoires de Walungu, Mwenga et Shabunda dépendent à près de 90% de Bukavu pour leur approvisionnement en produits de première nécessité. Pour rappel, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 avaient été lancés avec pompe en 2024 par les gouvernements congolais depuis la place de l'indépendance à Bukavu avant d'être interrompus en février 2025 à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire dans les Kivu. Dans un autre sujet, le site Watoto News parle du territoire d'Idjui, où des enfants abandonnent progressivement les chemins de l'école pour passer leur journée dans des pirogues dites bots, abandonnées le long du lac Kivu, où ils sont exposés à des multiples dangers et à l'exploitation des adultes. Lors d'une visite effectuée dans des ports de Mombu et Kachofu, Blaise Ngabo, éducateur de son état, s'est dit profondément choqué par cette situation que vivent plusieurs mineurs dans les territoires d'Idjui. Selon lui, de nombreux enfants quittent les bancs de l'école dans l'espoir de gagner un peu d'argent au bord du lac, au détriment de leur sécurité et leur avenir. Il alerte notamment sur les risques permanents auxquels ces enfants sont confrontés, notamment les noyades, des maladies liées à l'eau insalubre, ainsi que l'exploitation économique. D'après cet éducateur cité par Watoto News, plusieurs de ces enfants travaillent sans protection adéquate sur les lacs, parfois pour moins de 1000 francs congolais par jour. Une situation qu'il qualifie d'illégale et contraire aux dispositions du Code du travail ainsi qu'à la loi congolaise portant protection de l'enfant, laquelle interdit aux mineurs de moins de 18 ans d'exercer des activités dangereuses, notamment sur les lacs. Outre les dangers physiques, Blaise Ngabo insiste également sur les conséquences sociales de ces phénomènes. Selon lui, l'abandon scolaire prive ces enfants de toute perspective d'avenir et entretient le cycle de la pauvreté dans les communautés riveraines. Face à cette situation, il appelle les acteurs du secteur éducatif à renforcer le suivi des enfants absents de l'école et à sensibiliser davantage les familles sur l'importance de l'éducation. Il invite également les autorités locales et nationales à faire appliquer les lois protégeant les enfants et à sanctionner les personnes qui les exploitent dans des activités lacustres, conclut ce site internet d'information.
Par ici, France, Radio Journal, mise en onde assurée par Barton Boussi, mais devant ce micro pour la présentation expédie Kialou, passez des bons moments en compagnie de Radio Mendeleo. Au revoir.